L'écriture est un sport comme les autres. Nathalie Azoulay, Ghislaine David. L'écriture peut-elle se faire ailleurs qu'à une table, ailleurs que dans une chambre à soi? Par exemple dehors, sur les routes, en courant, foulée après foulée, kilomètre après kilomètre. Autrement dit, y a-t-il une chambre d'écriture mobile? Bonjour Cécile Coulon.
Bonjour.
Vous êtes un écrivain précoce et prolixe, comme on dit, puisque vous avez 28 ans et déjà 7 romans à votre actif. Et vous êtes une coureuse encore plus précoce, puisque vous avez fait votre première course à l'âge de 15 ans. Comment a commencé la course dans votre vie, Cécile Coulon ?
Ça a commencé d'une manière familiale, donc naturelle. Mes parents et mes frères couraient beaucoup, parfois ensemble, parfois chacun de leur côté. Et moi, je suis la dernière de la fratrie, donc je me suis mise à accompagner les autres pour faire quelque chose avec eux, pour être avec eux le week-end. Donc j'ai commencé avec des gens, c'était pas une pratique solitaire au départ. Et c'est devenu une pratique solitaire ensuite. Mes frères faisaient beaucoup de foot, donc ils le faisaient en équipe aussi. Ils étaient obligés de courir de toute façon. En tout cas, ils aimaient ça, ils aimaient le challenge que ça impliquait. Et je crois qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais essayer. Il y a eu un côté défi quand même. Il y avait quand même de grandes chances au départ pour que ça ne me plaise pas.
Parce qu'en fait, dans votre famille, il y avait une forme d'injonction selon laquelle il fallait faire du sport.
Moi, j'ai toujours eu cette sensation-là, même si ce n'était pas dit comme ça. Mais j'ai toujours eu la sensation que tout le monde faisait du sport, d'une manière ou d'une autre. Et que ne pas en faire, ça aurait été se mettre de côté, faire un pas de côté en tout cas. Et c'était peut-être une époque et un âge auquel je n'avais pas envie de faire ce pas de côté.
Alors aujourd'hui, vous êtes une vraie coureuse. Vous venez même de publier un livre sur le running, comme on dit. Et j'aimerais bien savoir combien de kilomètres vous courez par semaine.
Par semaine, en moyenne, 40 kilomètres, en moyenne.
Et par jour?
Alors, je ne cours pas tous les jours. Je cours les semaines de grande santé, 4 fois par semaine. Mais sinon, c'est 3 fois par semaine, à peu près.
Est-ce que vous faites de la compétition?
Assez peu, finalement. Je suis pas inscrite dans un club. Je fais quelques courses dans l'année, mais qui sont encore une fois des courses assez familiales, que je fais avec soit des personnes de ma famille, soit des amis. Il m'est arrivé de faire quelques semi-marathons, quelques courses aux distances bâtardes, comme on dit, c'est-à-dire les 14, 15, 16 kilomètres. Et là, l'idée, c'est de me préparer pour le marathon.
Ça, c'est votre prochain objectif?
Ça, c'est mon très gros prochain objectif, oui.
Alors, où courez-vous, Cécile Coulon ?
En Auvergne, je cours principalement en nature, c'est-à-dire soit autour des lacs auvergnats, le lac d'Eda notamment, et sinon, je cours, il y a un trajet qui va de Clermont à une ville au-dessus de Clermont qui s'appelle Roya, et donc c'est un trajet en côte uniquement, et ça, je le fais assez souvent, l'aller-retour. Le fait de courir en côte me permet d'éviter les séances de fractionner que je déteste, puisque la côte fait travailler le cœur énormément. Et j'ai un très beau panorama quand j'arrive en haut. Quand je suis à Paris, je cours au bois de Vincennes. Là, il n'y a pas de côte du tout. C'est très plat et donc c'est très simple et très facile. Le jeu consiste à slalomer entre les autres coureurs, plus. Et sinon, quand je suis en voyage ou en déplacement pour le travail, les villes où il y a un fleuve ou une rivière, je cours souvent sur les quais. Et sinon, en fait, j'aime beaucoup découvrir les lieux en courant. Donc je demande aux gens où faut-il aller en courant.
Mais en général, vous diriez que vous préférez courir là où vous avez déjà couru ou vous préférez découvrir de nouveaux endroits à chaque fois ?
En préparation marathon, je préfère courir là où j'ai déjà couru parce que je connais le terrain et que psychologiquement, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Alors que dans les lieux que je ne connais pas, je trouve qu'il y a un émerveillement de la découverte en courant, mais il y a quand même une petite étrangeté qui est qu'on est complètement voué à un lieu inconnu. Donc je suis soumise au paysage, Et ça m'a déjà joué quelques tours, puisque parfois je pars beaucoup trop vite, ou alors des fois je pars beaucoup trop lentement et j'arrive soit complètement fatiguée, soit j'arrive dans cet état qui est absolument insupportable, c'est-à-dire j'arrive avec encore beaucoup de force et beaucoup d'entrain à la fin de ma course.
Vous n'êtes pas assez épuisée.
Et absolument, et c'est vraiment, vraiment difficile à admettre quand on termine une course.
Est-ce qu'il vous arrive de courir à l'intérieur, dans des salles, sur des tapis ?
Il fut un temps où je courais à l'intérieur, il y a de ça 5 ou 6 ans. Et alors c'est quelque chose que je ne recommanderais à personne. En tout cas, moi je le faisais pour des raisons purement physiques. J'avais envie de me muscler, j'avais envie d'être plus mince, j'avais envie d'avoir un corps qui correspondait à l'idée du corps parfait que je me faisais, et je courais en salle pour ça. Et à un moment donné, ça a été un moment assez vif et un moment assez brutal, je me suis rendu compte que je me trouvais ridicule. Je me disais, si on met une caméra devant moi et si je me regarde, je vais vraiment trouver ça tout à fait absurde. Alors qu'en plus, étant né en Auvergne et y habitant, on a quand même des paysages très très beaux. Et je me suis dit, pourquoi je m'enferme dans une salle climatisée avec des clips de rap alors que je peux être dans un beau paysage? Et j'ai arrêté.
Donc quand vous courez en extérieur et dans un beau paysage, vous ne vous posez pas la question de l'absurdité du but que vous poursuivez?
Absolument pas. Parce que j'ai la sensation de... J'ai la sensation de disparaître, en fait. De disparaître complètement dans les lieux que je traverse. D'être quelqu'un d'absolument insignifiant. Et ça m'apporte une paix intérieure absolue. Alors que la salle de sport, vous êtes quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup sous le regard des autres. Vous êtes entouré de miroirs, que sont les yeux des autres ou les vrais miroirs. Et ça, c'est devenu très, très angoissant pour moi.
Vous écrivez dans votre livre sur le running que vous courez pour rien, sans raison. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces notions ?
Oui, c'est un peu étrange de dire ça, parce que est-ce qu'on court vraiment pour rien ? Peut-être que beaucoup de gens qui ont lu ou qui n'ont pas lu le livre vous diront que c'est pas possible de courir pour rien. Moi je pense que ça l'est, ou en tout cas de courir uniquement pour l'envie de courir ou le plaisir de courir. Ce qui est déjà une raison en tant que telle. Mais pendant très longtemps j'ai couru pour ces fameuses raisons physiques, pour faire un chrono aussi, ou pour être avec d'autres gens qui étaient les gens de ma famille. Et depuis quelques années, j'ai la sensation que courir fait tellement partie d'un mouvement intérieur, d'une nécessité vitale aussi, que je suis incapable de répondre à la question de pourquoi je cours. Et j'aurais tendance à dire pour rien, parce que ça fait partie de mes habitudes, comme manger, boire, respirer ou dormir. Je pense que si on m'enlevait la course, j'aurais du mal à appréhender le monde dans lequel je vis.
Donc Cécile Coulon, la course est devenue une sorte d'idée fixe pour vous ?
C'est plus qu'une idée fixe, c'est un mouvement fixe. C'est un mouvement fixe qui vient quand il veut et qui part quand il veut aussi. Mais en tout cas, depuis quelques années, je n'ai jamais passé plus de 3 jours sans courir. Donc je suppose qu'aujourd'hui, ça fait totalement partie de moi.
Il y a une forme d'appel.
Tout à fait, ouais, d'appel, d'alerte même.
Alors, comment s'articulent ces deux idées fixes dans votre vie et dans votre emploi du temps ? Est-ce que vous courez avant d'écrire ? Est-ce que vous écrivez puis vous allez courir ?
Je me suis rendu compte qu'écrire après avoir couru était pour moi la meilleure façon de développer mes histoires. Parce que je crois qu'après avoir couru 10 ou 15 kilomètres, je suis dans un état tout à fait propice à la transmission d'une histoire, à la construction aussi d'une histoire, à la construction de personnages, que je suis beaucoup plus capable d'aller fouiller en moi-même et d'aller fouiller mon imagination, parce que j'ai la sensation que je viens d'accomplir quelque chose d'important, en tout cas pour moi, parce que biologiquement j'ai toutes ces endomorphines qui sont montées au cerveau et qui me donnent l'impression que je suis capable de tout, et donc me donnent cette confiance en moi dont j'ai besoin au moment de l'écriture. Et j'écris plus et beaucoup plus, de manière plus efficace après avoir couru. En revanche, il m'arrive parfois, quand j'ai beaucoup écrit, d'aller courir simplement pour me défouler, simplement pour lâcher un peu les chevaux. Courir, c'est à la fois une manière d'expulser des choses et c'est à la fois une manière de fouiller une histoire.
Alors justement, insistons un peu là-dessus, comment est-ce qu'on fouille une histoire en courant ?
le mouvement de la course, la foulée, demande à ce que le corps soit extrêmement concentré sur la régularité, tout simplement, du souffle et de l'ensemble du corps, puisque c'est pas que les jambes qui courent. Le reste court avec les jambes. Et dans ce mouvement-là, dans cette concentration-là, il se passe une transformation assez aussi extraordinaire qu'imprévue. C'est qu'intellectuellement, tout ce qui est inutile quitte la pensée. Tout ce qui est encombrant s'en va. Alors c'est évidemment uniquement pendant le temps de la course et un petit peu après. Mais on ne garde, en tout cas je ne garde en tête que ce qui est parfaitement nécessaire à ma vie. Et quand je suis en train d'écrire, ce qui est parfaitement nécessaire à ma vie, c'est l'histoire qui est en train d'être construite. Donc en courant, je construis mon histoire. C'est-à-dire que la régularité de la foulée et la concentration qu'impose la foulée m'obligent en quelque sorte à solidifier ce que j'étais en train de faire avant, à creuser peut-être encore plus mon histoire, mes personnages, mon suspense aussi, m'oblige certainement aussi à crédibiliser ce que j'étais en train de faire. Et en tout cas, il y a vraiment cette espèce d'idée qu'on dégraisse totalement ce qu'on a écrit. Et beaucoup de gens disent qu'en courant, sans s'en rendre compte, notamment, ils s'affinent beaucoup. Ils se creusent aussi beaucoup. Et je trouve que intellectuellement, c'est ce qui se passe aussi. On s'affine intellectuellement en courant.
Et est-ce que vous diriez, Cécile Coulon, que le mouvement répété de vos semelles sur le sol en courant produit un tel mécanisme qu'il se répercute et qu'il rythme aussi la pensée ?
C'est évident. La vitesse de course va impliquer une certaine vitesse d'écriture, ou en tout cas une certaine atmosphère d'écriture. Une course très lente qui va durer très longtemps va donner un paragraphe ou un chapitre peut-être plus contemplatif. Alors qu'une course beaucoup plus rapide et peut-être plus violente aussi va donner un moment qui sera beaucoup plus noué, beaucoup plus noueux aussi et beaucoup plus tendu. Donc il y a un lien absolument évident et presque essentiel entre la façon de courir et la façon d'écrire.
Est-ce qu'il y a du son dans vos oreilles quand vous êtes sur la route ?
Quand je suis sur la route et sur les chemins, oui. Lorsque je découvre un nouveau paysage, généralement non, parce que je veux quand même voir de manière assez globale et totale ce qui se passe autour de moi. Et quand je suis par exemple sur des terrains un peu escarpés, ce qu'on appelle le trail, là je ne mets pas d'écouteurs pour des questions de sécurité, pour pas tomber tout simplement.
Donc en course de croisière, je dirais.
Oui.
Vous écoutez des choses.
J'écoute beaucoup de choses.
Et absolument. Qu'est-ce que vous écoutez ?
J'écoute de la musique principalement. Alors là aussi, il y a un espèce de troisième personnage qui vient s'inscrire dans ce moment, qui est le rythme de la musique que j'écoute, qui va influencer le rythme de course, qui va influencer le rythme d'écriture. Disons que la musique pour moi, c'est un petit dopant naturel. C'est d'ailleurs pour ça que c'est interdit hein, pour les professionnels, la musique en courant. Mais c'est quelque chose qui vient intensifier mon choix de départ. Je peux écouter de la musique classique, comme je peux écouter du rock américain, comme je peux écouter du rap français. Ça dépend vraiment de ce dont j'ai envie à la fin de cette course.
Alors, est-ce qu'il y a des idées qui vous viennent pendant la course ? Des idées nouvelles, c'est-à-dire relatives au roman que vous êtes en train d'écrire, mais qui surgissent vraiment au moment de courir ?
Il n'y a pas de personnages nouveaux qui surgissent, mais il y a des idées nouvelles. Déjà, il y a des idées nouvelles en matière de structure du texte. Il y a beaucoup de choses que j'enlève après avoir couru. Parce qu'en courant, je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien. Ce passage ne sert à rien, cette action ne sert à rien, ce mouvement ne sert à rien, donc j'enlève énormément de choses. Il arrive aussi, assez souvent, que des nœuds soient défaits en courant. C'est-à-dire que je sois au moment de l'écriture où je ne sais pas aller plus loin, ce qui est quelque chose d'assez difficile à passer, ces moments-là, d'avoir la sensation d'avoir un mur devant soi et de ne pas être capable de l'escalader et il n'est pas possible de le contourner, ce mur-là. Donc, la course va peut-être m'aider, en tout cas, à passer à travers, à jouer les passe-murailles, en tout cas. Et il arrive, et c'est toujours un moment merveilleux, qu'en courant, surgisse une scène. Une scène à laquelle je n'avais pas pensé. Une scène, au départ, je me dis, mais pourquoi j'y pense maintenant ? Qu'est-ce que ça vient faire là ? Est-ce que c'est vraiment utile ? Et je me dis maintenant, si ça surgit à ce moment-là en courant, c'est que c'est forcément utile. Généralement, ce sont pas forcément des scènes clés des romans, mais ce sont des scènes, des images, des plans, des panoramiques presque, qui viennent renforcer l'atmosphère du roman, qui sont des liens, qui sont des tirés entre deux moments importants, des scènes qui viennent, j'ai envie de dire, lifter l'histoire principale. Et quand ça arrive, peut-être même qu'aujourd'hui, si je cours, c'est peut-être pour que ça arrive, ce genre de choses, il y a une sensation de plénitude et de la sensation du travail accompli qui est très intense.
Mais est-ce que ces scènes qui surgissent, elles surgissent comme des vraies scènes, c'est-à-dire avec du mouvement, du relief, enfin en 3D, ou est-ce qu'elles surgissent comme des pages, c'est-à-dire du texte que vous voyez ?
Elles surgissent comme des scènes de cinéma. Elles surgissent comme si j'étais dans une salle, spectatrice, et que tout d'un coup, tout le noir se faisait autour de moi et que j'avais plusieurs minutes de film, mais plusieurs minutes de film jaillissant de nulle part. C'est pas le début, c'est pas la fin, il y a pas de générique. C'est pouf, il y a cette chose qui arrive, et qu'est-ce qu'on en fait ? Après, le grand défi, ou en tout cas peut-être le grand travail d'écriture, c'est que ces images deviennent des pages, justement.
Mais si vous pensez à des scènes que vous avez déjà écrites, elles surgissent comme des scènes ou comme du texte ?
Toujours comme des scènes. C'est très étonnant, parce que j'ai été d'abord marquée par le cinéma, par l'image, plus que par l'écrit. Et aujourd'hui, même en écrivant, j'ai besoin de visualiser mes scènes avant d'écrire. Et quand je les ai terminées, j'y repense et j'ai besoin que ces scènes soient solides, en quelque sorte. Je n'ai jamais pensé à une de mes histoires ou à une histoire de quelqu'un d'autre sans la voir.
Donc pendant la course, en fait, vous déployez, vous déroulez aussi à un écran de projection.
Complètement. C'est très visuel. C'est très visuel. Je dois courir un peu avec mes yeux aussi, mais il y a une espèce. Je pense que ma boîte crânienne devient une grande salle de cinéma, oui.
Et est-ce qu'il arrive, Cécile Coulon, que des idées viennent pendant la course, affluent même, et qu'une fois rentrées chez vous, elles tombent d'elles-mêmes pendant la douche et disparaissent ?
Elles soient lavées.
Ouais.
En fait, le moment où, on en parle très peu de ce moment où on se lave après la course à pied, mais c'est quand même un moment très important, à la fois pour la personne qui court pour courir, parce que c'est juste l'apothéose de la sensation de bien-être, quand même. Et puis c'est, en tant qu'auteur, c'est le moment où on se dit, allez, dans cinq minutes, je vais pouvoir écrire tout ça. C'est presque le moment où on a encore cette sensation de pouvoir tout faire, d'être capable de tout, et d'être une version améliorée de soi-même. C'est un espèce de sas, en fait, entre le mouvement et l'immobilité de l'écriture. Intérieurement, je fais comme les chiens, je m'ébroue, je secoue tout ça, et ce qui reste en moi, c'est ce qui est important.
Alors l'écrivain japonais Murakami, dans son autoportrait de l'auteur en coureur de fond, insiste beaucoup sur, évidemment, le rapport entre l'écriture et la course, et sur le fait qu'il a besoin de vivre physiquement, avec son corps, toutes les expériences de la vie. Est-ce que vous diriez que c'est votre cas aussi, Cécile Coulon ?
Je dirais même que si j'ai besoin de toutes les vivre, déjà je ne sais pas si j'ai besoin de toutes les vivre, mais si j'ai besoin de toutes les vivre, j'ai d'abord besoin de les vivre intellectuellement. Peut-être que pour moi, le corps est... Le corps est un ensemble, comment dire, de pensées, d'images et de mouvements tellement précieux que je ne veux pas non plus trop l'user. Ça peut être étonnant de dire ça quand on fait de la course à pied, puisque c'est un des sports qui use le plus, mais je n'engage pas mon corps aussi facilement que ma réflexion ou mon imagination, donc je serais difficilement d'accord avec Murakami là-dessus.
Mais est-ce que la satisfaction que donne une difficulté surmontée donne une confiance à l'écrivain que vous êtes ?
Non, j'ai pas cette sensation-là. J'ai la sensation qu'un palier passé n'est rien d'autre qu'un palier passé. Et en plus, en course, il y a, comme dans tout sport, il y a une variable qu'il faut pas oublier, c'est qu'on peut très bien passer un cap au niveau du chrono, de la distance, de la vitesse, un jour et le lendemain, avoir un moment absolument affreux, c'est-à-dire faire une très mauvaise course. Et ça peut être dû au corps, ça peut être dû à la température extérieure, ça peut être dû parce que c'est pas le bon moment dans la journée. Et je trouve ça assez beau de se dire que finalement, il est absolument impossible d'être sûr de soi, totalement sûr de soi en courant, ou dans la course en tout cas. Et je trouve qu'en écriture, c'est un peu la même chose. On peut écrire un très beau chapitre, ou plusieurs en une journée, et avoir l'impression de crier à reculons la semaine qui suit.
Mais qu'est-ce qui se passe en vous à ce moment-là, quand vous êtes sur le point d'arrêter, parce que vraiment c'est très très difficile et que vous n'en pouvez plus, mais que malgré tout vous n'arrêtez pas ? C'est quoi la mécanique mentale à ce moment-là ?
Je pense que chaque coureur a en lui un espèce de corps de rechange, qui est un corps intellectuel. C'est-à-dire qu'on n'en peut plus, c'est comme une espèce de batterie de secours, une roue de secours sur une voiture. Quelque chose en nous est usé, ou cassé, ou disloqué, ce serait plutôt le mot juste, et on a cette capacité intérieure qui est à la fois, qui est très intellectuelle, qui est mentale, à se dire, mais en fait non, tu es debout, t'as pas une jambe cassée, donc tout est fait pour que tu puisses continuer. Donc allons-y. C'est quelque chose qui se construit en courant, ça. C'est pas quelque chose qu'on a dès le départ. C'est la sensation que nous devons faire la différence entre la fatigue qu'on ressent et les forces qu'il nous reste. Parce qu'on a toujours des forces en réserve. On a toujours des muscles qui fonctionnent, qui ont mal, certes, mais qui fonctionnent. Et on est encore capable de courir peut-être 10 ou 20 kilomètres. Ça fera mal, mais on est capable de les courir. La question, je pense, intérieure à ce moment-là, c'est de se dire, est-ce que je suis prête à souffrir plus pour les courir ? La vraie question, c'est la souffrance. C'est comment le mental utilise cette souffrance non pas comme une entrave, mais comme un carburant.
Est-ce qu'il y a un moment pendant la course, Cécile Coulon, où vous vous sentez devenir quelqu'un d'autre ?
Je ne sais pas si je me sens devenir quelqu'un d'autre, mais en tout cas, je me sens sortir de moi-même. Ce qui est un petit peu paradoxal avec tout ce que j'ai dit avant sur le fait d'aller raconter des histoires, mais peut-être qu'en courant, le corps de l'écrivain, le corps de la jeune femme et le corps de l'athlète amateur se divisent en quelque sorte. Mais j'ai la sensation d'arriver à prendre de la distance sur moi-même, comme si... En courant, je sortais de mon enveloppe et que je me regardais.
Et est-ce que vous diriez, comme Murakami l'évoque dans son autoportrait, que vous rejoignez alors un état utopique du corps, qui est allégé, qui est mobile, ouais, qui est endurant, et qui va peut-être rejoindre aussi une autre espèce de corps, c'est-à-dire animal ou machinique, ou est-ce que vous transformez ?
Je suis assez d'accord avec cette idée d'utopie corporelle. C'est peut-être pour ça aussi que beaucoup de gens courent, c'est que en courant, on a l'illusion, parce que je pense que c'est une illusion, qu'on va atteindre le corps essentiel, qui serait absolument dénué de tout artifice, dénué de soucis, de problèmes, dont la pensée serait une pensée pure, très efficace, honnête et sincère. Peut-être que la course promet la sincérité du corps et la sincérité de l'esprit. Et pendant un petit laps de temps, qui est celui à partir des 40 premières minutes où les endomorphines sont montées et on passe cette espèce de cap intérieur, peut-être qu'on a effectivement quelques moments, quelques passages où on incarne cette utopie corporelle, mais elle ne peut pas durer. C'est peut-être pour ça que c'est une utopie d'ailleurs, parce qu'elle ne dure pas.
Mais ce corps essentiel, ou ce corps parfait, finalement est assez dématérialisé.
C'est un corps sans désir, sans apparat. Et encore une fois, c'est très paradoxal avec l'idée qu'on se fait du running actuellement. Parce que actuellement, les runners sont très appareillés, justement. Ils sont de plus en plus lourds, alors qu'ils ont des objets de plus en plus légers sur eux. Mais ils les accumulent, donc on n'a jamais été aussi lourd en courant. Mais à côté de ça, quand on parle de course à pied pour rien, il y a cette sensation que le corps est dénué d'artifices, de vêtements aussi, puisque l'idée est d'être très léger, mais qu'il est aussi... on lui a enlevé ses formes, on s'est creusé, on s'est affiné, ne reste que l'essentiel, ne reste que les muscles et un petit peu de peau et un squelette, et toute la transpiration qui va avec. Et c'est un corps qui ne connaît de désir que celui d'aller plus loin, finalement. Et c'est un corps extrêmement égoïste et très, très égocentré. Le monde autour, ou en tout cas l'humanité autour, est restreinte à la course.
Et asexuée.
Complètement, oui. Les corps des coureuses et des coureurs se ressemblent énormément. Enfin, on peut très vite ne pas faire la différence entre les deux. Moi j'aime bien cette idée-là, d'ailleurs. Et ça me plaît assez. Qu'il y ait peut-être un petit espace où la question du sexe n'est pas d'importance. Mais là, je parle dans le sport amateur, parce qu'évidemment, si on parle d'un point de vue professionnel, c'est toute une autre histoire. Mais effectivement, on ne parle plus de désir, on ne parle plus d'attirance, et on ne parle surtout plus de sexe.
Donc on rejoint une forme de corps humain global.
Global et donc très utopique.
Et si vous ne couriez plus, Cécile Coulon, que feriez-vous ?
Si je ne courais plus, j'essaierais de faire peut-être du vélo. Mais si je ne courais plus, déjà, je pense que je n'écrirais plus, ou j'écrirais beaucoup moins, et j'écrirais sans doute beaucoup plus, de manière beaucoup plus laborieuse. Je ne sais pas ce que je ferais si je ne pouvais pas courir.
Merci Cécile Coulon.
Merci à vous.
L'écriture est un sport comme les autres. Nathalie Azoulay, prise de son Marie Le Peintre, mixage Benjamin Vignal, réalisation Ghislaine David. Samedi prochain, rendez-vous avec Luc Lang et le karaté.